Peut-être vous le savez, le texte que nous venons de lire est extrait d'une longue controverse que les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens mènent tour à tour avec Jésus alors que Jésus est dans le temple. Le but avoué de ces questions à Jésus n'est pas pour eux d'en tirer un enseignement, mais d'éprouver Jésus pour le prendre en défaut sur l'une ou l'autre de ses paroles. Et cela pour pouvoir l'accuser, bien sûr. Non seulement pharisiens, sadducéens et hérodiens n'y parviendront pas, mais ils seront eux-mêmes réduits au silence par Jésus. La question posée dans notre texte par un docteur de la loi est, vous l'avez entendu au verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et on connaît très bien la réponse de Jésus. Verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut être surpris de la réponse de Jésus, car alors que ce docteur de la loi demande un commandement, Jésus a l'air d'en donner deux. On pense néanmoins que Jésus répond bien à la question, car il hiérarchise ces deux commandements en disant que le premier est le plus grand. Mais si le premier est le plus grand, on se demande alors pourquoi Jésus s'oblige à énoncer le deuxième. Ne pouvait-il pas en rester au plus grand commandement ? Il répondait bien à la question. Quelle est l'intention de Jésus en ajoutant ce deuxième commandement ? C'est vrai, Jésus établit une hiérarchie entre ces deux commandements, mais il ajoute une mention qui nous met dans le doute quand il dit « Et voici le second qui lui est semblable ». Si le deuxième commandement est semblable au premier, comment le premier peut-il être le plus grand ? Il ne vous a pas échappé, je pense, que les deux commandements parlent d'amour. Amour vers son Dieu, dans le premier, et amour vers son prochain, dans le second. C'est le point commun entre ces deux commandements. Je souhaite vous montrer ce matin qu'il y a une vraie équivalence entre aimer Dieu et aimer le prochain. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain, et aimer le prochain, c'est aimer Dieu. Et j'aimerais aussi vous montrer en quoi aimer Dieu est plus grand qu'aimer le prochain, alors que ces deux commandements sont semblables. Pour commencer, risquons-nous à dire quelques mots sur ce que pourrait bien vouloir dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Essayons d'en dire quelques mots. Je suis sûr que tout le monde va être d'accord avec cette affirmation, pardon. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jean le dit de cette manière dans son épître, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 12. Il y a eu bien quelques manifestations visibles de Dieu dans l'Ancien Testament, mais elles sont rares. Et dans ces manifestations, Dieu ne se fait voir toujours que de biais. Avec Moïse, souvenez-vous, Dieu se fait voir dans un buisson qui brûle sans se consumer. Et avec Élie, Dieu se manifeste dans un vent doux et subtil. Comme personne n'a jamais vu Dieu, comment peut-on l'aimer ? Comment aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu ? Pour aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu, la première chose nécessaire est qu'il faut croire à l'invisible, bien sûr. Aimer Dieu, c'est croire à l'invisible. Mais attention, pas croire au monde invisible comme une annexe du monde visible. Non, croire au monde invisible comme le fondement du monde visible. Comme cette partie invisible de l'iceberg sous le niveau de l'eau, qui est non seulement le fondement de la partie visible, mais aussi qui est bien plus grosse que la partie visible de l'iceberg. Aimer Dieu, c'est donc soupirer vers cette partie invisible aux yeux du monde, qui est pourtant à l'origine du monde. Abraham ne serait jamais parti de chez lui s'il n'avait pas cru au monde invisible. Aimer Dieu, c'est attacher plus d'importance à ce qu'on ne voit pas qu'à ce qu'on voit. Voilà une première chose. Aimer Dieu, c'est se tourner vers l'invisible. Le commandement que Jésus cite comme étant le plus grand et le premier commandement n'est dit qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Une seule fois. C'est dans la bouche de Moïse quand il adresse un long discours au peuple d'Israël avant que celui-ci ne rentre enfin en terre promise. C'est dans le Deutéronome. Dans ce discours, Moïse n'arrête pas d'invectiver le peuple à écouter. Chapitre 5, verset 1. « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je dis à vos oreilles aujourd'hui. » Chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Chapitre 9, verset 1. « Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. » C'est dans ce même discours que Moïse exhorte le peuple à aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur. Aimer, c'est donc écouter. Voilà une deuxième chose. Mais si aimer, c'est écouter, aimer, c'est se taire. C'est se taire, bien sûr, pour écouter. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais Dieu parle. Et l'aimer, c'est écouter ce qu'il dit. Le saviez-vous ? Plus on parle, moins on aime. Quand on prend conscience de l'overdose de paroles qu'il y a dans le monde, dans les médias, en politique, mais aussi dans nos églises, en particulier durant le confinement, je pense, on peut se faire une idée du peu d'amour que nous avons pour Dieu. On s'écoute parler au lieu d'écouter Dieu parler. Une troisième chose ensuite, aimer Dieu, c'est mettre en pratique ce que nous avons entendu. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ce que nous avons entendu. Et là, gros danger. C'est le gros danger du légalisme. Le légaliste, vous savez, c'est le pharisien. C'est celui qui croit à l'invisible, mais qui ne prend plus la peine d'écouter Dieu, car il pense que Dieu a tout dit dans sa loi. Il suffit donc d'appliquer la loi pour aimer Dieu. Le légaliste a chanté la case « écoute », car lui, il sait. Le problème est que Dieu dit des choses particulières à chacun. Ce que Dieu a à dire n'est pas contenu exclusivement dans la Bible. Pour aimer Dieu, l'homme ne peut pas se contenter d'étudier la Bible et, une fois qu'il l'a bien étudiée, se dire qu'il a bien écouté. Vous avez remarqué que le plus grand des commandements s'énonce à la deuxième personne du singulier. C'est un « je » qui s'adresse à un « tu ». Aimer Dieu, c'est entrer dans une vraie relation individuelle dans laquelle le « tu » ne maîtrise pas tout. Aimer, c'est donc entrer dans un dialogue. Et comme on le sait, tout dialogue a ses aléas. Incompréhension, coup de gueule, découragement. Aimer Dieu, c'est donc tâtonner. C'est n'être pas sûr d'avoir bien entendu. C'est s'engager dans une voie et rebrousser chemin parfois. Aimer Dieu, c'est vivre une relation qui embarque la personne entière. C'est pour cette raison que Moïse précise « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Le cœur, l'âme et la force, ou la pensée, représentent l'ensemble de la personne. Pensez à Jonas qui, entendant le Seigneur lui demander d'aller à Ninive, s'embarque tout entier à l'opposé. Pensez à Pierre qui veut que Jésus le lave entièrement quand Jésus lui annonce qu'il n'aura pas part avec lui s'il ne lui lave pas les pieds. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est ressembler à Jonas, c'est ressembler à Pierre. Une dernière chose avant de passer au deuxième commandement. Et pour cela, je vais vous relire le premier commandement. Écoutez, vous pouvez même fermer les yeux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Rien ne vous étonne ? Moi, j'ai été étonné que le Seigneur se fasse appeler ton Dieu. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu, mais d'aimer son Dieu. Pourquoi donc ? Son Dieu. En fait, Dieu est déjà mon Dieu avant même que je commence à l'aimer. Si Dieu est déjà mon Dieu avant que je l'aime, c'est qu'il m'a aimé avant moi. Dieu est à l'initiative de la relation. Il s'est risqué le premier à la relation. C'est lui qui m'a choisi et non moi qui l'ai choisi. On se trompe souvent, en particulier chez les évangéliques, car on pense que c'est nous qui avons décidé de suivre Jésus, Dieu. Non, on a suivi Dieu car il s'est imposé à nous en nous aimant le premier. L'amour qu'il me commande n'est qu'une réponse à son amour premier. Relisez le Deutéronome et regardez le nombre très important de fois où Dieu se fait appeler « notre Dieu » ou « votre Dieu » ou « ton Dieu ». Dieu s'offre à la relation. Souvenez-vous de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine dans Jean 4. Jésus prend l'initiative de la relation en disant « donne-moi à boire ». Aujourd'hui, Dieu te dit « donne-toi à moi ». Venons-en maintenant au deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question que nous allons nous poser est en quoi il est semblable au premier commandement. Et pour cela, poursuivons ce que j'étais en train de dire sur Dieu qui se propose en premier à la relation en se faisant appeler ton Dieu. Dans le deuxième commandement, il y a la même chose. Tu aimeras ton prochain. Ce n'est pas n'importe quel prochain, c'est ton prochain. Et il est appelé ton prochain, car comme avec Dieu, il est à l'initiative de la relation. Le prochain appelle à la relation. C'est celui-ci que Dieu me demande d'aimer, celui qui appelle à la relation. Dimanche dernier, je courais au bois de Thouars avec Pierre, notre pasteur, Stéphane et Stéphane, notre président. Et au détour d'un virage, une personne nous a supplié à la relation. Il nous a supplié à la relation pour qu'on vienne l'aider à réparer son vélo cassé. C'est lui qui nous a appelés à la relation, pas nous. En nous arrêtant, il est devenu notre prochain. Avec son prochain, comme avec Dieu, ce n'est pas moi qui décide de la relation. La relation est déjà là. Je m'ouvre ou non à la relation déjà existante. Cet appel à la relation peut être amical, c'était notre cas dimanche, mais elle peut être aussi conflictuelle ou agressive. Cela ne change rien quant à celui qui a l'origine de la relation. C'est le prochain qui souhaite la relation, comme Dieu souhaite aussi la relation. Voilà donc une première similitude entre ton Dieu et ton prochain. Les deux sont à l'origine de la relation. Je disais tout à l'heure qu'aimer son Dieu, c'est écouter et faire ce que Dieu dit. De même, aimer son prochain, c'est l'écouter et réagir à ce qu'il dit. Réagir, bien sûr, n'est pas forcément faire tout ce que mon prochain demande, loin s'en faut. Mais quand on réagit à ce qu'un autre dit, quelle que soit ma réaction, il me fait faire quelque chose que je n'aurais jamais fait, sinon, un peu de lui entre en moi. C'est exactement la même chose avec Dieu. Quand je fais ce que Dieu dit, un peu de Dieu entre en moi. Voilà une deuxième similitude. Réagir à ce que j'entends, c'est s'ouvrir à autre que moi-même. C'est le début de l'amour. C'est le début de l'amour. Vous me direz, il y a quand même une différence entre Dieu et le prochain. Mon prochain, je le vois. Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, je ne le vois pas. Mais là, mes chers frères et sœurs, n'accordons pas trop d'importance à cette différence-là. Qu'apporte la vue ? Un amour plus facile, plus immédiat, parce qu'elle est belle. Certainement, mais aussi un rejet plus facile et plus immédiat. Il est noir, ou il est blanc, ou il est jaune. Si l'amour perdure entre deux personnes, et même, je pourrais dire, se consolide, dans un couple, par exemple, ce n'est pas grâce à la vue. Le corps vieillit et devient moins attrayant, on le sait tous. Si l'amour perdure, c'est bien que cet amour se construit sur ce qui est invisible en chacun de nous, ce qui ne se voit pas a priori, mais qu'on sent, qu'on découvre à force de vivre avec l'autre. L'invisible de l'humain ressemble à Dieu dans le sens où il attire et il nous met en route. Et là, comme avec Dieu, on y va à tâtons. Aimer son prochain, c'est s'aventurer dans la partie invisible de l'autre. Vous voyez, aimer son Dieu est bien semblable à aimer son prochain, comme le dit Jésus. Que de similitudes entre ces deux commandements. Mais une vraie différence demeure néanmoins. Avec Dieu, ça ne vous a pas échappé, il s'agit de l'aimer de tout son être, sans limite. Avec son prochain, il s'agit de l'aimer seulement comme soi-même. En fait, le mot important dans le commandement d'aimer son prochain est bien sûr comme soi-même. En fait, il s'agit de ne faire aucune différence entre soi et son prochain. Pas plus d'amour pour soi que pour son prochain, c'est surtout ce qu'on pense, mais pas moins non plus. Si le commandement consiste à une égalité d'amour entre soi et son prochain, c'est qu'il y a quelque chose de soi à aimer dans le prochain, et cette chose de soi dans l'autre, qu'il s'agit bien sûr d'aller chercher, est bien sûr à aimer comme soi-même, puisque c'est soi. Il y a quelques années, un de mes collaborateurs m'a dit, dans un moment de colère, il était très en colère, « De toute façon, Jacques, je me suis fait tout seul. » Quel orgueil! Quel aveuglement! Il avait oublié toutes les fois où il avait fait sienne des choses venues de son prochain. On peut vivre cela très intensément dans le couple. Avec les années, le conjoint devient une partie de soi et soi devient une partie du conjoint. Le prochain devient une prolongation de soi. Le prochain est donc à aimer tout pareillement, comme soi-même. Le prochain comme une prolongation de soi, mais Dieu comme l'origine de soi. Voilà pourquoi aimer son Dieu est le premier et le plus grand des commandements. Avant de finir, un dernier mot sur le temps employé dans ces deux commandements, le temps des verbes, bien sûr. Vous avez remarqué qu'ils sont tous les deux au futur. Tu aimeras. Aimer n'est jamais fini, que ce soit Dieu ou le prochain. Aimer est un déplacement. On aime quand on est en chemin et pas quand on est assis. C'est un déplacement à tâtons, comme je l'ai dit, souvent dans le noir, mais c'est un élan hors de soi, suscité par un appel extérieur à soi. Mes chers frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres sur ce chemin-là. Un nouveau pays à sillonner s'ouvre à nous. Amen.